Voilà, un extrait des propos de Alexandre Vernin pour ces différentes résidences hein, qui ont maillé le côté artistique et scientifique des parcs, et notamment celui du Vercors, avec les quatre temps de résidence qui sont aussi associés à des lieux aussi, on pourrait dire, entre guillemets, un petit peu stratégiques, hein, puisqu'il s'agit, dans le cas de Dimitri Vazemski, Clara Kirchner, ou encore de Franck Micheletti qui a fait danser tout le monde au pied de Bourgnion, des cheminements hein, qui peuvent aussi avoir une perspective de transition touristique. C'était un petit peu aussi le but de faire connaître ce type de cheminement sur le Vercors. Confirmez Marie-Odile.
Oui, je vais confirmer. Je suis allée à la représentation au fil de la Bourgne. C'était en mai 2020. Ou juin 2022. Voilà. Et j'ai beaucoup apprécié le spectacle qui a été donné et surtout la rencontre entre donc des artistes professionnels, des musiciens, parce qu'il y avait aussi des musiciens, et puis des habitants, des associations de danseurs amateurs. Et j'avais trouvé que cette journée a été vraiment magnifique.
On peut dire une encablure de fil de la Bourne aussi qui donne un attrait de cheminement depuis Saint-Nazaire jusqu'au plateau du Vercors. Et là, le grand cirque du Bourgnion dont on reparlera avec le témoignage de Laura qui a participé en tant qu'habitante et danseuse sur ce secteur. Des beaux tableaux chorégraphiés partagés. On va maintenant intervenir autour notamment de l'intérêt de ces différentes démarches artistiques pour le parc du Vercors.
Oui, dans un contexte d'éducation populaire et puis de la culture également. Quelle est la part du public dans ce dispositif? Est-ce qu'il est aussi partie prenante ou alors est-ce qu'il est plutôt spectateur?
Alors, je vais peut-être reprendre un peu le contexte général du parc, la politique du parc, et puis Jamila complétera voilà, sur des aspects plus concrets. Pour rappeler que, d'abord ce que c'est qu'un parc, en tout cas le parc du Vercors, c'est une recherche sur un territoire d'un équilibre entre un territoire, son développement économique, puis aussi son patrimoine culturel. On en cherche toujours, on est toujours en état d'équilibre entre voilà, le développement du territoire, développement économique, développement de son agriculture, de ses forêts, du tourisme, et puis la préservation de ses paysages et de sa biodiversité. Alors, ça, c'est vraiment le contexte général. Alors, pourquoi des résidences artistiques sont importantes pour un parc? Parce que l'objectif de la politique éducation et culture de notre parc, c'est d'amener les habitants à partager ce qu'est ce territoire qui est un bien commun. Donc un bien commun, ça c'est l'aspect culturel de notre action. Et puis d'autre part, amener ces habitants et ces touristes et ces visiteurs à mieux connaître, à mieux comprendre ce qu'est un parc et les enjeux que porte un parc. La connaissance aussi par les habitants de ce territoire et par les acteurs socio-professionnels de ces enjeux. Et puis après, le troisième volet, c'est de mettre en relation ces territoires, tous ces aspects et les habitants du territoire. J'ai souvent dit les habitants, voilà, parce que là, le souci du parc du Vercors, quand même, c'est vraiment de rester ancré sur son territoire, sur ses institutions telles que les communes, les communautés de communes, les associations. Voilà. Et ça, c'est l'aspect troisième volet. Hein. Après le volet culture, le volet éducation, c'est aussi le volet participation citoyenne. Voilà. Alors, tout cela, ça s'inscrit dans une actualité qui est importante pour nous parce que le parc va renouveler sa charte. Un parc naturel régional, en fait, c'est quelque chose qui a une durée de vie de 15 ans et tous les 15 ans, finalement, il est remis en question. Il n'a pas une durée pérenne si, en fait, le territoire n'a pas envie que ça continue. Donc, c'est vraiment une institution démocratique et qui est remise en jeu. Et là, on est depuis quelques années, hein, depuis 2018, on remet en jeu la charte qui allait jusqu'en 2024, et il va y avoir une nouvelle charte pour 15 ans de 2024 à 2039. Voilà. Donc c'est un moment important pour nous. Et de faire des résidences artistiques à ce moment crucial de la vie d'un parc, c'est aussi important pour nous, parce que nous voulons faire partager à tous ces territoires, à toutes ces communes, ces communautés de communes, ces associations, le fait que nous sommes un parc parce que nous avons une culture commune. Et d'autre part, un parc, pour aller vite aussi, c'est aller aussi vers une coopération de tous ces territoires, de ces associations qui sont quand même très différents. Il y a des spécificités dans toutes les communes. Le parc du Vercors est assez étendu. Il va du nord, où on est plutôt, je dirais, un pays froid, un pays de montagne, vers le sud, où on est dans le Diois, où on est presque en Méditerranée. Donc il y a des spécificités importantes. Et ce que l'on cherche à faire, nous, parc, et à travers la charte qui va être votée en 2024, hein, c'est cette coopération entre tous ces territoires. Et puis autre chose que je voudrais dire, c'est que le parc aussi, un des axes de la nouvelle charte, c'est les transitions. On est dans des transitions économiques, on est dans des transitions écologiques, et on est dans un changement climatique qui est très important. Et pour nous, parcs, ce sont des enjeux importants. Et les démarches artistiques et culturelles, pour nous, peuvent aider à accompagner ces changements. Peut-être Jamila va me compléter sur des aspects peut-être plus techniques. Je m'éloigne du micro, oui, ce qu'il ne faut pas que je fasse.
Puis s'y retrouver dans ces différents types aussi de résidences et la manière dont tout cela s'opère.
Oui, effectivement, le parc s'appuie sur les démarches artistiques et culturelles comme levier d'interpellation des publics, de mobilisation et de sensibilisation. Et pour ça, il y a des compétences sur le territoire, en dehors du territoire, que l'on vient chercher pour justement mettre en place cette sensibilisation et accompagner les changements de comportement dans le cadre de ces transitions touristiques. Donc pour ça, les résidences artistiques sont pour nous un levier fort que l'on expérimente, que l'on regarde et que l'on suit avec un regard aussi critique pour aussi pouvoir toujours améliorer nos manières d'agir sur le territoire et de coopérer avec les différents acteurs. Donc effectivement, il y a différents types de résidences. Donc comme l'avait précisé Alexandre Vernin, et c'est l'objet des résidences dont on parle précisément aujourd'hui, donc les résidences de recherche-création, qui présentent effectivement l'intérêt majeur de croiser les approches par la recherche et de porter un regard critique analytique sur les processus de création à l'œuvre pendant ces temps de résidence et de ce que ça provoque ou ne provoque pas chez des publics, des habitants, des participants quand ils rencontrent les artistes et sont intégrés dans ces dispositifs créatifs. Donc ça, c'est un type de résidence. Un autre qui a été cité par Alexandre, donc la résidence d'action culturelle avec essentiellement des ateliers de création proposés à des participants. Donc ces dernières années, nous, on s'est moins appuyé sur ce type de dispositif, hein, qui présente pour autant bien sûr un certain nombre d'intérêts. Et puis, autre dispositif, la résidence de création-médiation. J'en cite une autre, c'est celle qui a été menée dans le cadre des 50 ans du parc avec la compagnie Traverse, qui est allée arpenter le territoire accompagnée de plusieurs artistes pour collecter des trésors matériels et immatériels perçus, vécus par les habitants, acteurs du territoire, que les artistes ont ensuite accompagnés dans des mises en scène photographiques et témoignages, et qui ont donné lieu à une exposition photographique qui aujourd'hui sert d'outil de médiation pour continuer la sensibilisation sur ce qu'est le parc, ce qu'il représente, vu et perçu par les habitants qui le constituent. Voilà un petit peu quels sont les trois types de résidences qui sont un peu aujourd'hui le socle de nos manières d'intervenir pour sensibiliser les publics, parmi d'autres approches aussi qui peuvent être plus éducatives, plus participatives et s'appuyer sur, on en reparlera après, différentes techniques d'animation, d'interpellation.
La résidence bilan, si on peut dire que c'est une résidence à part entière, la résidence bilan, Tony Péqueux, le fait peut-être avec du recul aussi de revenir un peu sur les lieux des précédentes résidences artistiques et qui mènent aussi de l'artistique et d'aspect scientifique hein, en ce qui vous concerne aussi.
Voilà, parce que il y a aussi, il me semble, hein, une autre mission des parcs, qui est aussi une mission scientifique. qui est au cœur des parcs. Et traditionnellement, il y a une certaine séparation entre ces expertises, entre les missions artistiques et puis missions scientifiques. Et là, voilà, il y a eu cette volonté que rappelait fort bien Alexandre, avec la DRAC, avec la Fédération des parcs, d'avoir quelque chose qui mélange ces différentes expertises et qui propose aussi, c'est aussi l'enjeu, je crois, hein, de ces résidences, qui propose quelque chose à partir de ce mélange d'expertises, qui fait une proposition, alors artistique dans le cadre d'Emmanuel, artistico-scientifique dans le cadre des recherches-créations, en tout cas qui a un regard sur ces territoires en transition. Et c'est ce qu'on a à la fois observé en revenant sur les différentes recherches-créations, et c'est ce qu'on a essayé d'apporter également, Marianne et moi, typiquement, là, dans ce que vous avez pu entendre, on s'était retrouvés, on le précise, hein, temps caniculaire, on s'est retrouvés à Saint-Julien en Vercors, par une journée de juillet de l'été 2022, si vous vous souvenez, était un de ces étés qui reviennent de plus en plus souvent caniculaires. On s'est retrouvé face à cette problématique un petit peu d'ombre et d'eau qu'on a essayé de documenter, hein, et de mettre en scène aussi de manière fictive pour essayer d'imaginer quels pourraient être les territoires de demain qui prolongeraient cette problématique et qui donneraient lieu à d'autres places, peut-être, on n'en sait rien. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé aussi de proposer à travers notre regard.
On va proposer une petite expérience par la personne de Dimitri Vazemski, qui a donc été partie prenante de la première résidence. Ça nous donnera l'occasion justement d'aborder les publics ciblés par ce type d'opération. Et là, on se retrouve pour un tout petit moment, 2 minutes, mais effectivement, dans une expérience, un partage avec ces grandes lettres en rouge, hein, qu'il a porté dans la forêt, qu'il trimbalait avec du public. Et là, nous sommes avec l'atelier d'alphabétisation du Centre social de La Passe, qui était aussi acteur, hein, d'une opération avec les lettres en rouge dans la forêt. Ça avait quelque chose d'assez singulier. On écoute et puis ensuite, on reparle bien des différents publics, hein, qui sont associés à ce type de démarche.
Marche qui va se faire avec des lettres, on va embarquer des lettres.
Des lettres.
Des lettres.
Voir. De l'alphabet.
L'idée, c'est d'en embarquer peut-être une par personne. Comme ça, on marche avec une lettre.
Et il y a des grandes. Alors, il y a les grandes lettres qui font à peu près 60 cm. Et puis moi, j'embarque aussi.
C'est quoi ça? Moi, je veux le B, c'est ma lettre en moi.
J'embarque aussi des petites lettres. Donc là, il y a tout l'alphabet. Et puis j'ai aussi ça.
On va jouer au Scrabble.
Oh, c'est presque ça. Il faut réussir à. Il y a aussi ça que vous connaissez sûrement.
Oh oui.
Ah non. Ça, c'est si vraiment on manque de lettres, on a du renfort.
C'est des petites pattes.
C'est des petites pattes alphabet. Donc il y a tout ça. On va avancer un petit peu. Là, on sera à l'abri du vent, je pense, après. Donc on peut prendre le C. Qui c'est qui voulait un C?
Moi.
Il y a le C. Après, j'ai des très grandes, mais les très grandes, on va pas les prendre. Hein. On va pas les prendre. Qui veut un K? Le K. Le B pour Belinda. Et donc on est parti. Et le truc, c'est on va marcher. Et si vous avez envie d'écrire un mot, une chose qui vous passe par la tête, un sentiment, j'ai froid, j'en ai marre. Ou... Si à un moment,
beau.
Ouais, voilà.
C'est beau.
On voit rien, mais c'est beau.
Ah, j'ai envie de rentrer. Ouais. Je me gonfle.
Alors ça, c'est avec les petites lettres.
Ouais. Je change mes enfants avec d'autres.
Ouais. Donc on va. Alors ici.
C'est qui veut mes enfants?
Là, le C. Voilà. On fait une petite pause ici. Tout à l'heure, il y avait le bon qui était sorti. On l'écrit ici. Et si on l'écrit où? Alors là, on reparle du Scrabble. Ce serait où le mot compte triple? Où est-ce que le mot bien placé peut avoir plus de sens dans le paysage?
Le bon.
Le bon. Ouais.
Mettre le panneau pour dire que c'est le bon chemin.
C'est le bon chemin.
Ouais, sur le panneau, on a raison, c'est le bon chemin.
Le bon.
Le bon moment.
Après,
le
bon moment.
Bon, allez, le bonheur.
Un bon endroit pour faire une petite sieste.
Il y a beaucoup d'ambiance hein, pour cette pastille réalisée donc sur l'espace naturel sensible de Combes-Laval avec le public Saint-Jean-Royant et l'atelier d'alphabétisation du centre social.
Et voilà justement l'intervention de ces artistes. Pour vous, ça a été réellement, enfin, ça a été pour vous une nécessité de faire appel aux artistes avec leur regard, leur connaissance et peut-être même parfois de l'impertinence.
Oui, tout à fait. Oui, les artistes et les résidences artistiques nous amènent un regard qui est différent, un regard qui est décalé. Et ils amènent aussi leur approche qui est une approche sensible. Et comme le disait tout à l'heure l'intervenant, c'est-à-dire que le fait d'avoir associé dans ces résidences des artistes et des scientifiques, c'était intéressant justement parce que par rapport à la question sur les publics, on peut imaginer que voilà, certains publics peuvent être attirés par l'aspect culturel, artistique, et puis à cette occasion bien, acquièrent des connaissances scientifiques. Et puis un autre public va être plutôt attiré par le thème scientifique. Et puis à ce moment-là, il va être peut-être surpris en fait, par le côté culturel, le côté sensible. Hein, et donc, croiser comme ça des scientifiques et des artistes, voilà, c'est vraiment intéressant et ça fait croiser aussi des publics. Voilà. Et pour continuer un peu sur les publics, on l'entendait là aussi, nous, notre but, voilà, c'est, on dit, croiser scientifiques, artistes, d'accord, croiser aussi tous les habitants, des socioprofessionnels, des hébergeurs, des danseurs, des musiciens amateurs, et puis des habitants, voilà, qui ne sont pas artistes, qui n'ont pas pour habitude, voilà, d'aller dans des concerts, d'aller voir des chorégraphies, et puis qu'à cette occasion, on pu écouter de la musique, on pu voir des danseurs, des chorégraphies, et ça, c'est vraiment intéressant, quoi, d'aller chercher ces publics-là. Et autre chose que je voulais dire, c'était par rapport aussi au public et puis aux appuis que nous avons. C'est à la fois parfois des publics et puis aussi des apports artistiques. C'est tout ce qui est association. On a beaucoup sur le Vercors, on a la chance au niveau culturel d'avoir beaucoup d'associations, de musiciens, de danseurs, de théâtre. On a beaucoup de choses. Et de les faire participer à la vie du territoire, c'est très important pour nous. On a aussi pour objectif, dans le croisement de ces publics, d'avoir pour partenaire les espaces de vie sociale. Et là, on l'a dit tout à l'heure, hein, on a fait intervenir un espace de vie sociale du Royan, hein, dans la création de Combes-Laval, si je ne me trompe pas, hein, Patrice. Voilà. Et puis bien sûr, quand je parle des publics, j'ai encore oublié un public qui est important pour nous, c'est aussi les touristes. Hein. Les touristes, c'est aussi un public et il faut les croiser avec les habitants et avec tout ce que j'ai présenté précédemment.
Juste, c'est une question que je ne sais pas si on la conservera, mais on parle du monde associatif hein, qui est en corrélation ou du moins participant aussi, également les espaces de vie sociale. Est-ce qu'il y a l'esprit de l'entreprise aussi qui peut être amené à être en partenariat?
Oui, alors, comme ça me vient à l'idée. Par exemple, on peut appeler une entreprise, par exemple, les grottes d'Auchorange, c'est une entreprise touristique, voilà, et elle participe, justement, enfin, Jamila, je pense, en parlera peut-être après, on a en projet une grosse résidence artistique sur 2 ans, et on va travailler avec des professionnels, en particulier, il y a les grottes d'Auchorange, hein, qui sont une entreprise qui est partante, qui est candidate pour croiser avec des artistes. Après, entreprises, les hébergeurs, hein, c'est des entreprises, les hôtels, les restaurants, voilà, ce sont des entreprises. Alors, chez nous, on n'a quand même pas, c'est pas des entreprises industrielles. Hein. Comme j'ai entendu l'émission qu'il y a eu sur le PILA, c'était du patrimoine industriel qui était mis en avant. Bon, nous, on n'a pas, on a du patrimoine industriel, mais pas autant que d'autres parcs. Voilà.
C'est là où la spécificité des parcs hein, joue avec les publics qui gravitent autour de ce type d'opération. Mais je vous propose d'écouter justement pour une opération qui composait la deuxième résidence, France Micheletti, danseur, et Chiara Piaille, anthropologue. Et nous avons contacté très récemment Franck Micheletti, donc, qui nous donne son ressenti sur cette opération, donc a posteriori, a priori, donc, avec une certaine digestion dans le temps.
C'était un projet artiste-chercheur dans les trois parcs naturels. Et l'idée étant d'être un peu aux intersections de terrains sensibles, artistiques et vivants, et dans la rencontre avec les sciences humaines, sociales, et aussi avec l'interface des environnements, évidemment. Nous, ce qui nous a passionné, c'est d'être dans la rencontre et l'échange avec différentes problématiques. De ce point de vue, c'était fort stimulant. Donc, ça peut paraître étonnant de dire qu'un chorégraphe danseur associé à une anthropologue va se retrouver en résidence sur un parc naturel régional. Et en fait, le but de ce projet, c'était de voir comment, on va dire, moi je parle de mon point de vue danseur-chorégraphe, à savoir un amateur d'espace, hein, un amoureux d'espace, et quelqu'un aussi qui a une certaine habileté pour connaître les chemins de son corps, et notamment son panorama sensoriel, comment un corps s'active pas seulement depuis des centres de décision, de volonté, la tête qui téléguiderait tout ça, mais il y a plusieurs moteurs, et notamment des moteurs sensoriels, sensibles, sensitifs, et qui sont stimulés par les environnements, hein, ce qu'on appelle le feedback. Un feedback, c'est juste un retour d'expérience de ce que font et ce que produisent, ce qu'activent les lieux que nous traversons. Donc en fait, la question qu'on est venu poser ensemble avec l'anthropologue et dans la rencontre avec les équipes du parc, c'est la question d'un geste qui soit un geste dansé, un geste en mouvement, mais qui soit surtout un geste situé, à savoir un geste qui soit en liaison et en relation pleine avec le temps, les lieux, les personnes et les rencontres qui allaient se produire. En tant que danseur et chorégraphe, je parle d'une définition assez simple, qui est celle d'un théoricien danseur américain qui s'appelle Steve Paxton, et qui dit la danse, c'est faire des mouvements en marchant. Donc en fait, ce n'est pas l'idée d'un spectacle, hein, c'est l'idée de finalement, en marchant, on collecte des mouvements, et ces mouvements s'activent avec voilà, ce panorama sensoriel qui nous fait vivre des choses et expérimenter des choses. Voilà, c'est cet endroit hein, de la danse dont on parle. L'idée pour moi étant que la danse aussi est potentiellement de tous les lieux, et que selon les lieux, elle fabrique un mouvement différent. Donc chaque balade est différente, et chaque balade précise une envie de mouvement différent. Donc, les balades que j'ai fait au Vercors ont produit chez moi un enrichissement de mon vocabulaire dansé et de certains états que j'ai découverts sur le relief et sur votre terrain. C'est en cheminant, c'est en faisant et en parcourant, en foulant, en arpentant vos chemins que me sont venues ces associations et ces envies de produire ce geste, c'est ça le geste situé. Et c'est l'intention aussi du bureau d'accompagnement Lowlink, basé en Savoie, avec lequel on développe ensemble ces projets. Le projet, premier projet qu'on a fait est un projet de sentier en montagne, puisque les premiers ciels ouverts qu'on a fait, c'est des ciels ouverts un petit peu plus en hauteur que chez vous. Voilà, on était à 2600 mètres. Et puis après, on a eu envie un tout petit peu de descendre et de s'adapter à différents types de reliefs. Mais quoi qu'il en soit, de garder cette idée de faire pour un lieu et dans la résonance de ce lieu précisément. Voilà un petit peu la philosophie du projet Ciel ouvert. En 2022, On est retourné dans les trois parcs pour donner suite à ce projet avec un autre trio qui était un trio, j'étais avec une compositrice finlandaise qui s'appelle Maria Rossi, et de, son nom de scène c'est Cucina Povera, et un compositeur, musicien, arrangeur, Emmanuel Rousseau, bien connu hein, de vos territoires puisqu'il habite dans le Vercors. Et tous les trois, on a cheminé ensemble pour faire un album, un vinyle qui s'appelle Terre Légère, qui a été quasi intégralement enregistré en extérieur. Il y a quelques prises qui ont été faites parce qu'elle demandait de l'électricité, quelques arrangements qui ont été faits un peu à la maison, on va dire. Mais 80% de l'album a été enregistré en extérieur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons qui produisent des résonances et des ondes et qui sont particulièrement intéressantes quand on attend et quand on affine nos écoutes. Et ça a été un petit peu le guide de cet album Terre Légère.